Bleu, RCFM. RCFM, Christine Allouz, les experts.
Et bonjour et bienvenue dans les experts. C'est Christine Allouz et je suis avec vous jusqu'à 10h30. Et on parle alimentation de nos petits aujourd'hui. Ça représente parfois un véritable casse-tête. On ne sait pas toujours si on fait bien, si on lui donne l'aliment qu'il faudrait, si c'est pas trop. Que de questions, mais formidable, mon invité de ce matin que vous commencez à bien connaître, puisque vous êtes nombreux et nombreuses à me le demander sur les réseaux sociaux, le professeur Patrick Tougnan a toutes les réponses que vous vous posez. Alors vous n'hésitez pas, 04 95 32 22 22. Nathalie vous accueille au standard et Théo réalise cette émission.
Les experts, 9h30, 10h30, Christine Allouz.
Si jamais t'oublies le premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar. Si jamais la vie n'est pas de mon côté, ne veut pas de nous, non, ne veut plus jouer. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Je suis touché, bravo, ma reine. Tu as gagné, je suis qu'un fou, un fou. Ta douleur, tu verras, ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps, on se donnera, c'est sûr, comme dans nos.
Pourra tomber.
France Bleu RCFM. France
Bleu. On parle alimentation ce matin dans les experts avec le professeur Patrick Tougnan. Bonjour.
Bonjour Christine.
Meilleurs vœux, professeur.
Meilleurs vœux à vous et à toute la Corse.
Et on est ravis de vous accueillir encore ce matin. On rappelle que vous êtes pédiatre, chef du service de nutrition et gastro-entérologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris. Et vous êtes là pour répondre à toutes les questions de nos auditeurs sur l'alimentation des enfants, petits et grands. Alors vous nous appelez, hein, 04 95 32 22 22. Nathalie vous accueille au standard. Et vous pouvez vraiment poser toutes les questions qui vous passent par la tête au professeur Patrick Tougnan. On va prendre la première question qui est arrivée sur les réseaux sociaux. C'est Karine, qu'on salue, qui nous demande, eh bien, un sujet que vous aimez bien, professeur. On entend beaucoup de choses sur le lait de vache. Est-ce qu'il est vraiment adapté aux 0-3 ans ou pas du tout?
Alors le lait de vache n'est pas adapté aux 0-3 ans, en ce sens que à cet âge-là, il faut des laits infantiles, c'est-à-dire premier âge, deuxième âge, puis lait de croissance.
Voilà.
Ça, c'est un versant de la question. L'autre versant de la question, est-ce que le lait de vache est toxique? Je rappelle que les laits premier, deuxième âge et de croissance sont, pour la majorité d'entre eux, fabriqués à partir de lait de vache. Donc, est-ce que le lait de vache est toxique pour les enfants de 0 et 3 ans? Bien évidemment non, malgré tout ce qu'on entend et qui n'a absolument aucun sens.
Une question qui vient après, sur le bio, sur alors les aliments destinés aux enfants de moins de 3 ans, que ce soit des laits infantiles, des petits pots, obéissent à une réglementation très stricte. Je vois que vous écoutiez nos émissions, bravo Karine. Si bien que pour ces aliments, le choix du bio est-il vraiment justifié?
Alors il est bien sûr totalement injustifié, il est plus cher, donc ça n'a aucun intérêt. Et en plus, le cahier des charges du bio est peut-être moins réglementé, ou en tout cas moins pointilleux que le véritable règlement de l'alimentation infantile, en ce sens que le bio a une obligation de moyens et non pas de résultats. Donc je déconseille totalement, parce qu'il est inutile et parce que on ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, l'alimentation bio chez les enfants.
Est-ce que vous pourrez nous rappeler, professeur, simplement les exigences, justement, les contraintes auxquelles sont soumis justement les laits infantiles, les petits pots, les laitages spécifiques, etc., tout ce qui est pour les enfants, justement?
Alors, pour les laits infantiles, la composition des nutriments qu'ils contiennent doit être, enfin, la concentration de ces nutriments doit être dans une fourchette définie par une réglementation européenne qui permet donc d'assurer les besoins des nourrissons. Ça, c'est pour les laits infantiles. Et les laits infantiles et les petits pots doivent obéir à ces réglementations concernant les pesticides. Pour ainsi dire, il faut quasiment qu'il n'y ait aucune trace de pesticides, ou en tout cas extrêmement peu et bien en deçà des doses toxiques. Et deuxièmement, des nitrates. Les nitrates doivent être en quantité extrêmement limitée, quasiment nulle. Donc ces deux éléments-là font que les aliments pour enfants sont particulièrement sécures et le bio n'apporte absolument rien en plus, si ce n'est un prix plus cher.
D'accord. Du coup, professeur, au niveau du lait, vous le disiez, très très important, je voudrais qu'on le rappelle quand même, on va sur du lait de croissance, de 0 à 3 ans, on prend pas du tout tout ce qui est appelé lait et qui ne l'est pas forcément, je pense aux produits à base de soja, à base de riz, etc. On reste vraiment sur du lait infantile.
On reste sur du lait infantile, les boissons végétales non adaptées que vous avez citées sont terriblement dangereuses puisqu'elles peuvent malheureusement mener au décès par dénutrition majeure. Maintenant, pour les gens qui ne veulent pas de protéines d'origine animale, et notamment de lait de vache, l'alternative, ce sont des boissons à base de protéines de riz, mais des boissons qui sont des préparations infantiles, c'est-à-dire dont la composition est conforme à la réglementation européenne. Donc c'est comme un lait infantile, sauf que au lieu d'être fait à base de lait de vache, il est fait à base de protéines de riz. Donc voilà l'alternative pour ces familles-là, et surtout pas les jus d'amandes, de noisettes, de châtaignes ou autres soja qui sont vendus dans le commerce et qui ne sont pas adaptés à l'enfant. Il y a même une autre alternative pour ceux qui n'aiment pas la vache et qui préfèrent la chèvre, il y a des préparations infantiles à base de lait de chèvre.
Voilà, donc on l'a bien compris. Pardon, c'était important de le rappeler. On a une question de Stéphanie qui nous demande, est-ce que la viande et le poisson se valent en quantité de protéines?
Alors, le problème des protéines, qui revient régulièrement...
C'est
dans
souvent,
les Ah voilà, on parle tout le temps des protéines. Les protéines, il y en a dans les légumes, il y en a dans les fruits, il y en a absolument partout, des protéines. Et ça n'est pas un problème pour nous en France, fort heureusement. Et je dirais même dans tous les pays industrialisés, le problème des protéines est celui des pays en voie de développement qui malheureusement n'ont pas accès à la viande et qui mangent qu'un seul type de végétaux. Donc, c'est pas un problème de protéines, c'est un problème de fer. La viande, c'est un problème de fer. La viande est l'aliment le plus riche en fer bien absorbable. Quant au poisson, il apporte du fer, mais c'est extrêmement variable. Ça va du simple au triple, voire au quadruple. Plus la chair d'un poisson est foncée, rouge ou brune, notamment le thon, plus il est riche en fer. Et plus la chair du poisson est blanche, moins elle est riche en fer. Donc, les équivalences en termes de fer sont extrêmement variables. En revanche, le poisson amène un nutriment extrêmement important qu'on appelle l'acide docosahexaénoïque, ou plus simplement le DHA, qui est un acide gras absolument fondamental pour le développement cérébral des enfants. Et donc, la recommandation de la Société française de pédiatrie, c'est 2 produits carnés par jour pour le fer et 1 à 2 portions de poisson par semaine pour ce fameux DHA.
Est-ce que, alors il y avait, on entendait un petit peu à un moment donné, qu'il fallait manger des sardines pour les, enfin qu'il fallait donner à manger des sardines aux enfants, puisque c'était un poisson qui était en début de chaîne alimentaire et qui se nourrit que de plancton et qui était moins exposé à la pollution des mers. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, professeur Tounian?
La sardine a un avantage, c'est qu'elle est riche en DHA. Donc, c'est le principal intérêt du poisson. Maintenant, la toxicité du poisson, qui malheureusement, effectivement, revient largement, notamment quand je fais des conférences.
C'est parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus, c'est pour ça que je vous la pose.
Oui, ben, je sais bien. En plus, vous mangez beaucoup de poissons en Corse, donc c'est une question, c'est purement théorique. C'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, plus les poissons sont gros et mangent des petits poissons qui ont eux-mêmes et mangé d'autres petits poissons, etc., et ils contiennent un peu plus d'arsenic, de mercure ou de certains contaminants chimiques, mais ça reste vraiment purement théorique et il ne faut pas avoir peur de ça. Pour être très clair, aujourd'hui, le problème du poisson dans notre pays, peut-être pas en Corse, mais en tout cas dans le reste de notre pays, c'est que les enfants n'aiment pas habituellement le poisson ou aiment peu le poisson. Et notre problème, c'est pas de donner trop de poisson aux enfants, mais c'est d'en donner suffisamment. Donc, on donne 1 à 2 portions de poisson par semaine et on ne se préoccupe pas de cette toxicité potentielle qui n'a jamais été rapportée dans le monde, excepté une fois au Japon où une usine avait déversé des contaminants, notamment du mercure, dans l'eau. Et là, les poissons qui étaient en contact avec ce qui avait été déversé étaient effectivement très très riches en mercure et avaient conduit à une toxicité pour les enfants qui les avaient consommés. Mais c'est un cas très très particulier avec une usine qui avait fait ce qu'on ne devrait pas faire, c'est-à-dire déverser ces déchets dans l'eau.
Voilà. 04 95 32 22 22. Vous pouvez poser toutes vos questions sur l'alimentation de vos enfants, petits et grands, au professeur Patrick Tounian. Moi, je lis bien évidemment aussi vos messages sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM. Vous pouvez continuer à en envoyer. Et puis tout de suite, on écoute Vita avant toi.
Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur.
Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais l'amour, tu sais la passion.
Avant toi, Vita et Slimane.
France Bleu, RCFM. France Bleu.
On parle d'un sujet qui préoccupe tous les parents, tous les grands-parents, c'est l'alimentation de nos enfants. Énormément, énormément de questions ce matin qui sont arrivées sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous appeler également 04 95 32 22 22. Nathalie vous accueille au standard. Vous pouvez poser toutes vos questions, la diversification alimentaire, le bio, tout ce que vous voulez. Vous pouvez nous appeler, le professeur Tunion se fera un plaisir de vous répondre. Alors, beaucoup de questions, je le disais, professeur, qui sont arrivées sur nos réseaux sociaux. J'essaye de les regrouper un petit peu puisque donc ne vous inquiétez pas si je vous cite pas, hein, si on répond à votre question dans une autre, voilà, la question et la réponse est pour vous aussi. Alors, j'ai lu un article qui dit qu'un patient de 17 ans souffre d'une neuropathie optique nutritionnelle due à la malbouffe et a perdu définitivement la vue. Que faut-il pour en arriver là ? Mon fils mange très mal. Nous dit Frédéric.
Je vais répondre à cette question, mais c'est peut-être pas la réponse. Effectivement, la malbouffe conduit à des neuropathies diverses et variées. Et c'est quoi la malbouffe ? C'est le végétalisme. C'est-à-dire, c'est une très mauvaise nutrition qui conduit à des carences, notamment certaines vitamines, qui peuvent donner des problèmes neurologiques. Donc
c'est pas la malbouffe comme on peut la penser, professeur Tunion.
Absolument pas. Alors, dans des très rares cas, quand on mange, par exemple, on voit ça chez les enfants autistes ou chez des jeunes enfants dans des milieux extrêmement précaires qui ne mangent, par exemple, nous on en a eu dans le service, un enfant qui ne buvait que du lait de vache, du lait de vache natif, et qui mangeait des danettes. C'est tout. Et donc, ils avaient une carence en vitamine C. Ce qui est très très rare, hein, parce qu'on parle beaucoup de vitamine C. Mais la vraie malbouffe, aujourd'hui, c'est le végétalisme, c'est-à-dire des patients qui, je dis volontairement patients parce qu'ils sont malades, des patients qui excluent de leur alimentation tout produit d'origine animale, qui conduit à des carences, et des carences qui peuvent avoir, comme chez ce patient, des problèmes neurologiques graves, parce que souvent, c'est avec des séquelles.
Et donc on perd définitivement la vue, professeur ?
Alors, là, je vois pas exactement de quoi il s'agit, mais il doit le risque dans les atteintes neurologiques, c'est de garder des séquelles. Certaines atteintes neurologiques régressent heureusement sans séquelles ou en tout cas avec des séquelles peu visibles, mais le grand risque des problèmes neurologiques d'origine carentielle, c'est de garder des séquelles absolument définitives et gravissimes. Là, vraiment, en tout cas, si la question c'est est-ce que la malbouffe dans le sens où on l'entend, les fast-food, etc., peut donner ce genre d'anomalie ? La réponse est très claire.
Oui, non, parce qu'elle me dit « mon fils mange très mal », donc je pense que c'est à ça qu'elle fait référence, en fait.
Voilà, sûrement. Sûrement. Mais par contre, le végétalisme et les régimes d'exclusion, qui malheureusement sont de plus en plus fréquents, ceux-là peuvent conduire à des problèmes carentiels graves. Moi, j'ai 30 ans d'expérience, je n'ai jamais vu un seul problème lié à la malbouffe tel qu'on l'entend aujourd'hui. En revanche, malheureusement, je vois de plus en plus d'enfants carencés avec des complications graves à cause de régimes d'exclusion, notamment le végétalisme.
On a vu une émission là-dessus, d'ailleurs. Hein.
Absolument. Qui conduisent à des carences et des séquelles, voire malheureusement au décès.
Alors, Karima nous dit, professeur, c'est un plaisir de vous avoir à l'antenne aujourd'hui. La technique d'accouchement influence-t-elle sur les allergies ? Je suis enceinte de 7 mois.
Alors, c'est une question qui est plus théorique et de recherche, j'allais dire, puisque on a montré que plus les enfants étaient en contact avec beaucoup de bactéries très tôt dans leur vie, moins ils avaient le risque de développer une allergie plus tard. Donc, il y a deux choses qui peuvent agir. L'une qui ne concerne pas la question de cette maman, mais qui est l'utilisation d'antibiotiques. Très tôt, ce qui arrive assez souvent chez les nouveau-nés, l'utilisation d'antibiotiques pourrait augmenter le risque d'allergie ultérieure. Et quant au type d'accouchement, eh bien, l'accouchement par voie basse, donc par voie vaginale, fait qu'au moment de l'accouchement, l'enfant avale les bactéries à la fois vaginales, mais aussi du tube digestif de sa maman et se contamine, se colonise très rapidement. Alors que par césarienne, cette colonisation se fait moins bien. Et donc, certains pensent, et il y a des éléments aussi pour l'étayer, que l'accouchement par voie basse diminue le risque ultérieur d'allergie, contrairement à l'accouchement par césarienne. Si bien que certaines maternités aujourd'hui mettent une compresse dans le vagin de la maman et le font sucer la compresse au nouveau-né qui vient de naître par césarienne pour qu'il avale ce qu'il aurait dû avaler s'il était né par voie basse.
D'accord, bon,
mais
merci.
Mais ça reste très théorique, hein. Donc je pense qu'il faut privilégier ce que décidera l'obstétricien si cette maman nécessite une césarienne pour une raison médicale. Je pense qu'il faut qu'elle écoute son obstétricien et qu'elle ne pense pas au risque d'allergie.
Oui, voilà. Puis bon, même quand il y a des allergies, ce n'est pas ce qu'on peut penser des fois. Je veux dire, bon, est-ce que la technique d'accouchement influence vraiment là-dessus? Enfin, c'est peut-être prendre des risques pour rien. Je veux dire, si, comme vous le dites, s'il y a nécessité médicale à avoir une césarienne et ne pas le faire pour les risques d'allergie potentiels, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas la bonne question à se poser.
Exactement. Je pense que l'obstétricien ne fera pas une césarienne par plaisir. S'il décide une césarienne, c'est qu'il y aura besoin d'une césarienne pour sauver la maman ou l'enfant. Et donc, la césarienne, bien évidemment, sera indiquée.
Voilà. Bon, Karima, une bonne fin de grossesse. Ne vous posez pas trop de questions, celle qui parle.
Voilà.
Mais voilà.
Pour Karima, parce qu'elle est en septième mois, il faut qu'elle mange beaucoup d'aliments à fort potentiel allergique.
Ah oui. Voilà, manger des cacahuètes.
Tous les fruits à coque, l'arachide, donc les cacahuètes. Donc tout ça, parce que du lait, tout ça, on a montré que plus la maman consommait de produits à fort potentiel allergisant pendant sa grossesse, moins l'enfant était allergique.
Voilà, donc ça va vraiment... Et est-ce que ça influence, professeur, aussi les goûts alimentaires futurs des enfants en fonction de la diversité alimentaire de la maman?
Beaucoup le disent, mais sincèrement, je ne pense pas, parce qu'il y a un biais majeur. C'est-à-dire que lorsqu'on a consommé beaucoup d'aliments pendant la grossesse, on continue à consommer ces mêmes aliments après la grossesse. Et donc, l'enfant, qui est dans la même famille, a l'habitude de consommer ce type d'aliments. Donc, est-ce que c'est parce que la maman en a consommé pendant la grossesse que ses enfants, par exemple, on voit beaucoup avec le cumin ou le curry, qui sont des aliments qui ont un goût assez particulier. Donc, un nouveau-né dont la maman a consommé beaucoup de curry, si on lui met du curry dans la bouche, il va téter. Alors qu'un nouveau-né dont la maman n'a pas consommé de curry, si on lui met du curry dans la bouche, il va faire une grimace. Et donc plus tard, l'enfant qui a été habitué au curry aimera le curry, alors que l'autre peut-être pas. Mais est-ce que c'est parce qu'il en a eu pendant la grossesse, ou est-ce que parce que il en a eu au cours de son enfance, parce que la maman a continué à consommer du curry, la distinction est quand même difficile à faire. Bon, néanmoins, de manière générale, pendant la grossesse, plus on mange d'aliments différents, plus on mange de goûts différents, c'est sûrement meilleur pour l'enfant. En termes d'allergie, c'est certain. En termes de goûts, peut-être.
Bon, voilà. Une question d'un papa. Julien nous dit, nous avons un bébé de 8 mois qui ne dort pas la nuit. Est-ce qu'il existe des aliments ou autres favorisant le sommeil?
Ah non, non, non. Ça, les enfants qui ne dorment pas la nuit, c'est un problème absolument majeur. Et le thérapeutique, le traitement n'est pas dans l'alimentation. Le traitement est dans la prise en charge. Typiquement, ce sont souvent des enfants qui s'endorment d'une certaine façon, avec la tétine ou dans les bras. Et lorsqu'ils se réveillent dans la nuit, ils veulent être endormis de la même façon. Donc, d'accord, par exemple, on l'a endormi dans les bras, il demande à ce qu'on le prenne dans les bras pour qu'il se rendorme. S'il a dormi avec une tétine, eh bien, comme sa tétine sera tombée, il va chercher sa tétine, il va pleurer. Donc, le mieux, c'est d'endormir ses enfants, et très tôt, de manière neutre. On les met dans le lit. Et comme ça, lorsqu'ils vont se réveiller, ils vont se trouver dans la même situation que lorsqu'ils se sont endormis. Et après deux, trois cris, ils peuvent se rendormir assez rapidement. Mais c'est pas l'alimentation qui va régler le problème.
Je pense qu'il y a une allergie. Voilà, il nous disait peut-être l'alimentation, peut-être en pensant à des coliques, je suppose. Hein,
Oui, mais justement, dans les coliques, aujourd'hui, on sait que l'alimentation n'a pas d'influence.
Voilà. Donc, patience, Julien, pour ce petit bébé de 8 mois qui ne fait pas encore ses nuits. Ça arrivera bien assez vite. On va prendre une dernière question, avant de couper pour la météo et pour le journal. On a souvent des préjugés selon lesquels les légumes surgelés sont moins intéressants que les légumes frais d'un point de vue nutritionnel. Quelle est vraiment la différence dans l'assiette, professeur? Nous demande Nicolas. Beaucoup de papas ce matin. C'est bien. Ça fait plaisir.
Ah, c'est bien. Bravo. Aucune. Franchement, aucune. Les nutriments apportés par les légumes sont vraiment on en a besoin en très faible quantité. Les vitamines, on en a besoin en très très faible quantité. Et franchement, si ça arrange des parents de consommer des légumes surgelés qui ne se fassent, qui n'aient aucune crainte. Ils peuvent donner des légumes congelés à leurs enfants sans aucune crainte de carence nutritionnelle.
Denise nous demande encore sur les légumes, quelle est la meilleure méthode de décongélation pour que les légumes gardent toute leur valeur nutritionnelle? Eh bien, vous pouvez...
Franchement, celle qu'elle veut, la valeur nutritionnelle des légumes, c'est un problème d'adulte, c'est pas un problème d'enfant.
Voilà. Donc, et les techniques de préparation, professeur, est-ce que ça a son importance? Vapeur?
Non plus. Franchement, non plus. Ce qui est bien, c'est de régulièrement faire consommer aux enfants des végétaux frais.
Voilà.
D'abord des fruits. Ou des concombres, la salade. C'est-à-dire non cuit. Mais c'est tout. Les moyens de préparation n'ont aucune importance. Tout ce qu'on entend sur la préservation des vitamines, tout ça. J'ai 30 ans d'expérience. Je compte sur les doigts d'une main les carences vitaminiques que j'ai vues. Et encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était chez des enfants qui avaient des régimes aberrants.
Oui, voilà.
Aberrants.
C'est important.
Donc, les enfants
préciser.
Qui mangent pas assez de légumes. Ça, j'en ai vu des milliers. Aucun n'a jamais eu de problème carentiel.
Bon, voilà, ça rassure. Voilà, déculpabilisation ce matin dans Les Experts. On va revenir avec vous, professeur Tougnon. Ça sera après la météo et après le journal. Petite info route, un troupeau de brebis sur la route en divagation après la canonique à route de la Marane. Soyez prudents.
J'aime ma cure thermale à Barbotan. Pour soigner mes jambes douloureuses, le parcours de marche sous l'eau me soulage, rend mes jambes plus légères. Et je redécouvre le plaisir de randonner au cœur du Gers.
Pour votre confort veineux, prenez un nouveau départ à Barbotan. Soulagez vos douleurs, réduisez vos médicaments, retrouvez votre vitalité.
Chaîne thermale du soleil agit naturellement pour votre santé.
Interrogez votre médecin et appelez au 0800 32 32 32 ou chainethermale.fr.
Pour être en bonne santé, l'air que nous respirons doit être renouvelé. Comme dans notre logement. Aérer et ventiler permet de chasser les polluants. Préservez votre santé en renouvelant l'air intérieur tous les jours.
Casa Riosa, Casa Sana.
Ceci est un message de l'AUE, l'ADEME et l'ARS de Corse.
RCFM vous ouvre les portes de son cabaret.
Patrizia Diapoli est la première invitée de l'année du cabaret. La chanteuse vient nous présenter en live et en public son nouvel album, Berce Universo. Pour participer à l'enregistrement du cabaret de Patrizia Diapoli, appelez-nous sans plus tarder au 04 95 32 22 22.
Le cabaret, enregistrement ce jeudi dès 18h30 à Spertimouziga, 5 rue des Zéphyrs à Bastia.
Le cabaret avec Citroën Socodia à Bigoulia et Portovecchio.
La météo avec Isocomble, isolation des combles en laine de coton dans toute la Corse.
De belles éclaircies se produisent ce matin. L'après-midi, elles se réduisent en un ciel plus chargé. En cours de matinée, vent d'ouest, sud-ouest soufflant assez fort dans le Cap Corse, sur la Banyagne et sur l'extrême sud. Puis atténuation pour les températures maximales comprises entre 13 et 15 degrés sur le pourtour du département, sur les autres régions comprises entre 9 et 11 degrés. RCFM, il est 10h. Le point sur l'actualité, Didier Arnoux, bonjour.
Bonjour, et l'actualité, ce sont encore des véhicules brûlés. Cette nuit, dans la banlieue bastiaise, à 3h25, à Luciana, une voiture a été incendiée à 6h. C'est un fourgon situé, stationné face au site de déchets de Teguim qui a été détruit par les flammes. Les deux véhicules ont d'ailleurs été totalement détruits. La grogne continue pour les personnels d'encadrement et d'enseignement des lycées agricoles de Borgo et de Sartène. Hier, ils étaient déjà une trentaine à manifester leur inquiétude devant la préfecture de région Ajaccio et devant les locaux de la DRAF, la direction régionale de l'agriculture, l'alimentation et la forêt. L'intersyndicale proteste contre l'évolution des conditions d'embauche des agents contractuels. Les recrutements sur les postes vacants sont depuis peu ouverts à l'ensemble du territoire, alors que les syndicats défendent, eux, la nécessité d'une maîtrise des spécificités insulaires. Une délégation a été reçue à la DRAF, pas d'avancée selon les personnels, qui comptent mener d'autres actions dès aujourd'hui devant les lycées agricoles de Borgo et de certaines qui pourraient être bloquées. Les syndicats et le gouvernement se réunissent ce matin pour trouver une issue au conflit sur la réforme des retraites avec, pour la première fois, La présence de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, jusque-là très peu associée à cette réforme. Il sera en fait surtout question de la gestion des fins de carrière et de la pénibilité au travail. Depuis 2017, certains métiers ont été retirés du compte pénibilité, notamment les aides-soignants et ceux qui transportent des charges lourdes. La grève des avocats, elle a été votée pour toute la semaine. Les deux barreaux d'Ajaccio et de Bastia l'ont décidé. Ils sont appelés à ne pas plaider ni devant un tribunal, ni devant des juges, ce qui pourrait perturber les comparutions, les transferts de détenus par exemple. Les avocats dénoncent une réforme des retraites injuste les concernant. Leur régime autonome de retraite pourrait être fortement impacté, allant jusqu'à un doublement des cotisations.
Merci Didier. Prochain point sur l'actualité, ça sera à 11h.
Ayo, yoga, c'est votre jeu sur RCFM, tous les jours de 11h à midi.
Eh ben, j'avais qu'à répondre plus vite, donc je parle à ma femme.
Une minute pour répondre à un maximum de questions et remporter de nombreux cadeaux. On vous attend du lundi au vendredi de 11h à midi. Sur RCFM.
Da Filaganale a Regno, da Lecce a Ascu, RCFM, insieme Simone.
RCFM, Christina Luzzi, les experts.
Et bonjour et bienvenue dans les experts, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, on parle alimentation aujourd'hui, alimentation de nos tout-petits, de nos plus grands, avec le professeur Patrick Tougnan, pédiatre et chef du service de nutrition et gastro-entérologie pédiatrique à l'hôpital Trousseau à Paris. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, il reste une demi-heure d'émission. Vous pouvez nous appeler 04 95 32 22 22 ou nous envoyer vos messages sur nos réseaux sociaux France Bleu RCFM.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Alors, professeur, beaucoup de questions qui arrivent sur nos réseaux sociaux. J'essaye de trier un petit peu au fur et à mesure. On parle diversification. Les petits garçons ont-ils besoin de plus calories que les filles, nous demande Valérie.
Oui, mais ils se régulent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de leur proposer plus. Ils vont simplement manger davantage. Et là encore, il y a une extrême variabilité interindividuelle, c'est-à-dire qu'on va avoir certaines filles qui vont manger davantage que les garçons. Donc il faut s'adapter à l'appétit de l'enfant et ne pas lui imposer une quantité, qu'elle soit réduite ou pas. C'est-à-dire qu'on peut lui donner beaucoup à manger, ils s'arrêteront avant, ça ne sert à rien de limiter les aliments donnés aux enfants, ça ne prévient absolument pas l'obésité.
Voilà. On nous rabâche 5 fruits et légumes par jour. Est-ce véritablement une règle à suivre, nous demande Andule. On a beaucoup de papas ce matin, ça fait plaisir. Nous écoutent.
Les 5 fruits et légumes par jour sont non seulement une règle à ne pas suivre, c'est-à-dire que je réponds l'inverse, hein, il ne faut pas donner 5 fruits et légumes par jour aux enfants. Ça déséquilibre leur alimentation. 1 ou 2 fruits et légumes par jour suffisent amplement aux enfants, et comme je l'ai dit tout à l'heure pour ceux qui étaient déjà à l'antenne, c'est bien de leur donner régulièrement des végétaux frais, c'est-à-dire non cuits, mais surtout pas 5 fruits et légumes par jour. C'est une recommandation de l'adulte, et même là, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment bénéfique, mais là, je n'irai pas plus loin parce que c'est pas ma spécialité. En tout cas, chez l'enfant, surtout pas 5 fruits et légumes par jour, 1 ou 2 par jour suffisent amplement.
Voilà, Andulou. Merci de nous écouter. Professeur, on a une question sur le goûter. Quel est le goûter idéal selon vous ?
Celui qui fait plaisir à l'enfant.
Voilà, le goûter, c'est un moment de plaisir, vraiment.
Exactement. C'est un moment de plaisir. Quand j'entends, il ne faut pas donner de pain au chocolat, mais plutôt du pain avec du chocolat, non. Si l'enfant veut du pain au chocolat, on lui achète un pain au chocolat. S'il veut du croissant, il prend du croissant. Le goûter est un aliment plaisir, est un repas plaisir. Et donc, on doit donner à l'enfant ce qui lui fait plaisir. Il faut juste s'assurer que les 3 autres repas, le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, lui apporte les nutriments dont il a besoin, c'est-à-dire les 2 produits carnés, les 3 produits laitiers quotidiens, les 1 ou 2 fruits ou légumes quotidiens et les 1 à 2 portions hebdomadaires de poissons. Voilà l'équilibre alimentaire. Et donc le goûter, on l'utilise pour faire plaisir à l'enfant, pas trop tôt du dîner pour qu'il puisse suffisamment manger au dîner. Et puis, surtout, pas de recommandations diverses et variées, comme je l'entends, en disant il faut ci, il faut ça. Non,
oui, parce qu'il y a même dans des écoles où, par exemple, on leur donne des compotes, on n'accepte pas les gâteaux. Donc, ce sont des recommandations qu'il ne faut pas suivre, professeur.
Voilà, je n'en dirai pas plus, sinon, c'est totalement stupide. On donne ce qui leur fait plaisir.
Voilà, donc ce Francesca, c'est vraiment un moment de plaisir, vous faites ce que vous voulez. On est vraiment dans la déculpabilisation ce matin, comme d'habitude avec vous, professeur, ça fait du bien.
Déculpabilisation scientifiquement était...
Et oui, et bien entendu, non, mais tout à fait, sinon on ne vous ferait pas venir. Vous êtes vraiment l'expert en la matière, c'est pour ça qu'on vous accueille aussi souvent. Quel est l'âge idéal pour la diversification d'un bébé? Mon fils a 3 mois et demi, j'ai l'impression qu'il en a marre du lait, c'est un peu tôt 3 mois et demi peut-être.
Alors, 3 mois et demi, j'espère qu'il n'en a pas marre du lait, parce qu'il va en boire pendant longtemps. L'âge de la diversification, c'est 4 mois révolus. C'est-à-dire à la fin du 4e mois. Donc, par exemple, pour un enfant qui est né le 1er janvier, eh bien, il faut lui donner au fin avril. Vous voyez, il faut 4 mois entiers.
Janvier, 4 mois entiers.
Avril. Donc, c'est à la fin du 4e mois qu'on peut commencer la diversification. Donc, l'enfant de cette maman n'en a pas assez du lait, faut qu'il continue. Et après la diversification, il faudra qu'il continue à boire au moins 3 biberons par jour, en cas de tétée s'il est allaité. Donc, c'est pas le moment d'en avoir marre du lait.
Voilà. Donc, Véronique, si vous pouvez nous préciser pourquoi vous dites qu'il en a marre du lait, un bébé 3 mois et demi. Peut-être marre du goût. Est-ce qu'on peut mettre, par exemple, des céréales déjà, 3 mois et demi, professeur, des céréales pour ajouter un petit peu de goût? Je pense à ça, je sais pas.
Normalement, on ne commence pas avant 4 mois.
Non,
c'est
plus.
C'est pas utile, en plus, de commencer avant 4 mois. Puis à partir de 4-6 mois. Faire presque même 6 mois, on peut commencer les céréales. Alors, pourquoi pas plus tôt? Parce que tous les nutriments dont l'enfant a besoin se trouvent dans le lait infantile. Si on ajoute des céréales, il risque de diminuer la consommation de lait, c'est-à-dire qu'il va diminuer les volumes bus. Et donc, il va diminuer la quantité de nutriments apportés par le lait qu'il va ingérer. Donc, moi, je ne recommande pas les céréales avant 5-6 mois.
Voilà.
Surtout pas à 3 mois et demi.
Donc voilà, Véronique, mais si vous pouvez nous préciser pourquoi vous nous dites que vous pensez qu'il en a marre du lait, c'est intéressant. On a une question, à partir de quel âge on introduit les morceaux, professeur, nous demande Jean-Luc.
Alors ça, c'est une question importante parce que pour éviter une situation qu'on rencontre souvent, des enfants qui refusent les morceaux à 15-18 mois. Donc la séquence suivante doit être respectée. Donc à 4 mois, on commence la diversification et jusqu'à 8 mois, c'est une alimentation lisse, c'est-à-dire mixée. On voit tout à fait à quoi ça correspond. À partir de 8 mois, il faut passer d'une alimentation lisse à une alimentation moins lisse, c'est-à-dire il faut passer de l'alimentation mixée à une alimentation moulinée.
Est-ce qu'on fait ça progressivement? Enfin, je m'explique. Au début, c'est complètement lisse. Est-ce que, au fur et à mesure, parce qu'il y a sur les, je suis en plein dedans, sur les petits robots, il y a des techniques de mixage, j'ai envie de dire, 1, 2, 3. Est-ce que progressivement, on mixe un petit peu moins? Ou on fait
oui, c'est toujours mieux de faire progressivement. Donc si maintenant il y a des robots qui sont totalement adaptés, oui, on peut le faire progressivement, passer de 1 à 2, puis de 2 à 3. En tout cas, à 8 mois, il faut que l'enfant ait une alimentation moulinée, c'est-à-dire moins lisse et déjà avec des petits grumeaux. Et dès 10 mois, on introduit des petits morceaux. Dès 10 mois, bien sûr qu'ils vont être tout petits à cet âge-là et qui, au fur et à mesure où l'enfant va grandir, les petits morceaux vont grandir avec lui. Donc, je répète la séquence, 4-8 mois lisse, mixé, 8-10 mois mouliné, à partir de 10 mois, des petits morceaux dont la taille augmente progressivement. En utilisant cette séquence, on diminue considérablement le risque de voir des enfants qui refusent des morceaux, comme on le voit très souvent.
Oui, il y en a beaucoup, hein.
À 15-18 mois, voire 2 ans.
Et comment ça se passe, professeur, justement, quand un enfant refuse à cet âge-là de manger des morceaux? Parce que ça arrive, hein.
D'abord, c'est trop tard puisque cette séquence n'a pas été faite. Donc, on les réhabitue en leur proposant dans chaque assiette des morceaux, mais surtout séparés de la purée. Parce que si on mélange les morceaux dans la purée, il va être trompé. Il va avoir une purée, il va manger, puis il va ressortir de petits morceaux. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le fait de le cacher ne va pas arranger les choses, mais au contraire l'aggraver. Donc, il faut lui donner sa purée à côté, des petits morceaux séparés de la purée et lui proposer très régulièrement, le faire manger avec ses autres frères et sœurs ou avec les parents. Et à force, il va vouloir faire comme les autres et il va consommer les petits morceaux. Mais dans certains cas, c'est extrêmement compliqué et on peut mettre très très longtemps à réhabituer les enfants à manger les morceaux.
Voilà, donc surtout très très important, respectez vraiment la séquence que vous a dit le professeur Patrick Tougnon, c'est très très important. On a une autre auditrice, Isabelle, qui nous dit « Pouvez-vous nous dire comment débuter la diversification ? On est un peu perdu, on entend beaucoup de choses. »
Alors moi je suis très libéral encore une fois dans la diversification, mais il y a une chose que j'aime bien, il faut débuter progressivement. Vous avez parlé du moulinage progressif, et là aussi il faut être très progressif et débuter par les très petites quantités. C'est pour ça que moi ce que je suggère, c'est de commencer par mettre 2 cuillères à café de purée de légumes, voire de purée de fruits, dans les biberons. Ça a 2 avantages. Le premier, c'est qu'on va donner que 2 cuillères. Donc, on va pouvoir augmenter 2, puis 3, puis 4.
Ah, donc, on ne donne pas tout de suite, du coup, à la cuillère ?
Non, sauf chez les enfants à l'été, bien sûr.
D'accord. Oui, bien entendu.
Les enfants à l'été, on n'a pas le choix. Mais chez les enfants qui sont au biberon, on va mettre 2 cuillères dans le biberon, pendant 2-3 jours, puis 3 cuillères, etc. Ce qui va nous permettre de l'introduire progressivement, ces diversifications. Mais en plus, il va continuer à consommer suffisamment de lait. Je répète, il faut que les enfants continuent à consommer 3 biberons par jour ou 4 tétés jusqu'à 1 an. Donc, j'aime bien cette technique. Puis, vers 5-6 mois, eh bien, on passe à la cuillère avec le repas du midi. Et parce que c'est le plus classique.
Donc, on commence par les légumes, toujours, professeur ?
Non, pas toujours. On peut commencer par les fruits. Traditionnellement, on commence par les légumes. Mais si les parents veulent commencer par les fruits, ça n'a aucune espèce d'importance. Là aussi, il y a plein de choses qui se disent, mais qui ne sont absolument pas étayées scientifiquement. Traditionnellement, on commence par les légumes, mais on peut commencer tout à fait par les fruits ou faire les deux en même temps. C'est-à-dire le midi, mettre des légumes et le soir, mettre des fruits.
D'accord. Non, parce que moi, on m'avait dit qu'il faut commencer 15 jours de légumes et après, au bout de 15 jours, on passe à le légume et le fruit, peut-être pour que le corps s'habitue de l'enfant, c'est ça ?
Non, tout ça, absolument pas. On peut, dès le premier jour, mettre des légumes à midi et des fruits le soir, voire l'inverse. Franchement, tout le reste est de la pure théorie péremptoire.
D'accord. 04 95 32 22 22. Vous pouvez nous appeler aussi. Hein. Vous pouvez nous appeler. Nathalie vous accueille au standard pour poser toutes vos questions au professeur Patrick Tougnon. Je reçois bien entendu tous vos messages sur nos réseaux sociaux. Ce sera tout de suite après Calma, Alicia.
Como dice Fonsi.
Pedro Capo, Alicia Keys, Calme.
France Bleu, RCFM. France Bleu.
Dernière partie de l'émission, on parle de l'alimentation de vos enfants ce matin dans les experts. Énormément de questions sur les réseaux sociaux. On vous attend également au standard 04 95 32 22 22. Nathalie vous accueille et vous pouvez poser toutes vos questions au professeur Patrick Tougnon. Alors professeur, beaucoup de questions sur le bio qui arrivent. Je n'ai pas toujours les moyens à la fin du mois d'acheter des compotes bio à mon fils. Est-ce que je prends des risques à lui faire manger des compotes non bio ?
Alors que les choses soient très claires, le bio n'a aucun avantage en termes de toxicité, contrairement à tout ce qu'on entend. Donc que cette maman ou ce papa ne se ruine pas et arrête d'acheter du bio, ça n'a strictement aucun intérêt. Et ceci d'autant plus lorsqu'il s'agit d'alimentation infantile. Mais là, je ne crois pas qu'elle parle d'alimentation infantile. Donc aucun risque, aucun.
Voilà, donc décomplexé total, vous pouvez pas, mais c'est pas grave, vous achetez des compotes pour enfants. Hein. Est-ce que justement, professeur, il y a une différence entre les produits enfants, je dirais, les produits estampillés vraiment enfants, où un enfant peut manger des compotes comme nous adultes?
Non, les compotes, d'ailleurs, de manière générale, les aliments estampillés enfants n'ont pas un intérêt majeur après un an.
D'accord.
Avant un an, les petits pots, on a parlé notamment de la texture tout à l'heure, mais il y a aussi certains éléments qui sont ajoutés, peuvent avoir un intérêt, même si la préparation artisanale, donc à la maison, est tout aussi bien. Donc globalement, il n'y a pas d'avantage énorme, et plus l'enfant grandit, moins ça a un avantage. Donc pour les compotes, puisqu'on en parle, ça ne sert à rien d'aller chercher des compotes spécifiques pour enfants, elles sont plus chères, encore moins quand elles sont bio, encore moins d'intérêt. Donc franchement, on peut dès un an manger la même chose que la famille, il y a juste des règles, notamment le lait de croissance, au moins un biberon de lait de croissance, et les règles d'équilibre alimentaire, 3 produits laitiers quotidiens, 2 produits carnés quotidiens, 1 ou 2 fruits et légumes quotidiens, et 1 à 2 portions hebdomadaires de poisson.
Donc après un an, il peut très bien manger des yaourts normaux, on n'est pas obligé de prendre les brassés là, qu'on voit estampillés justement. Absolument. Pour les enfants.
Absolument, sauf s'il ne boit pas de lait de croissance, parce que certains aliments, pas tous, certains aliments spécifiques pour enfants sont enrichis en fer. Donc c'est la seule indication, c'est les enfants qui ne boivent pas de lait de croissance après un an, et là on peut prendre des aliments spécifiques à condition qu'ils soient enrichis en fer.
On va accueillir un auditeur.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Bonjour Guy.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur. Je voudrais vous poser une question concernant une famille végane.
Oui.
Dont leur principe, c'est ce mode de vie. Comment font-ils pour compenser, eux et pour leurs enfants, compenser en protéines? Parce qu'en fin de compte, tout le monde dit que le vegan, ça ne sert à rien, en dehors de protéger des animaux, la souffrance. Mm-hmm. Mais à un type d'alimentation, on a besoin de protéines. Comment font-ils?
Alors, merci pour votre question. La Société française de gastro-entérologie et nutrition pédiatrique vient de donner des recommandations pour l'alimentation végétalienne des enfants. Je vais vous la résumer très simplement. Avant un an, il faut remplacer donc les laits infantiles à base de lait de vache par des préparations infantiles à base de protéines de riz. Donc là, c'est le même problème. Après un an, et surtout au-delà, à l'enfance et à l'adolescence, il y a des risques de carence qui portent sur 5 nutriments essentiels. 1, le calcium. Donc, c'est parce qu'ils ne mangent pas de lait. Ils ne mangent pas de produits laitiers. Donc, ces enfants doivent être supplémentés de calcium. 2, le fer. Le risque de carence en fer est nettement augmenté. Donc, ces enfants doivent être, pour la plupart, pas tous, être supplémentés en fer. Je reviens au calcium. Quand on n'a pas assez de calcium, il faut de la vitamine D pour mieux l'absorber. Donc, ces enfants doivent être supplémentés en vitamine D. Quatrièmement, les produits d'origine végétale n'ont pas de vitamine B12. Donc, ils devront être systématiquement compensés en vitamine B12. Et enfin, l'acide eicosahexaénoïque, le DHA, qui est un élément essentiel pour le développement cérébral et qu'on trouve dans les produits de la mer essentiellement. Donc, ces enfants doivent être supplémentés en DHA. Donc, l'alimentation végétalienne n'est bien sûr absolument pas adaptée à l'espèce humaine et plus particulièrement aux jeunes enfants, puisqu'ils doivent avoir 5 supplémentations. Dernier point, parce que vous avez parlé des protéines, les protéines ne posent absolument aucun problème. Une alimentation végétalienne est parfaitement équilibrée en protéines.
Ça répondait à vos questions, Guy?
Oui, ben, je vous remercie parce que je m'inquiète autour de moi. J'ai dans ma famille quelqu'un, un couple qui vit comme ça et je m'inquiète parce que ça me semble pas normal. Moi qui adore la côte de bœuf, je comprends pas quoi.
Mais du coup, professeur...
Vous avez raison de vous inquiéter malheureusement pour l'enfant. Pour les parents, je les laisserai. Mais pour l'enfant, vous avez raison de vous inquiéter. Mais je vous ai dit, notre société savante vient d'émettre des recommandations, des préparations infantiles à base de riz pour les plus jeunes et 5 compléments alimentaires pour les moins jeunes.
C'est pas très naturel comme ça, tout ça, professeur, quand même. Parce que on veut manger vegan, on veut pour la planète, etc. Mais au final, on prend des supplémentations. Vous le disiez, c'est pas très. Enfin, je sais pas, ça va pas trop avec ce mode de vie.
L'alimentation végétalienne est totalement inadaptée à l'espèce humaine. Si demain, tous les êtres humains devenaient végétaliens, c'est la disparition de l'espèce humaine.
Voilà. Donc Guy, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Pour le coup, là, on déculpabilise pas. Il faudrait, en fait, professeur, il faudrait pas soumettre, enfin, il faudrait pas obliger les enfants, surtout dans le plus jeune âge, à faire ce genre de régime.
Alors après, on est dans des milieux avec une idéologie très très marquée et difficile à convaincre de faire l'inverse. C'est pour ça que nous avons émis ces recommandations. Je ne vais pas répéter parce que je viens de
Non, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez quand même dans votre service spécialisé, vous recevez quand même des enfants j'ai envie de dire entre guillemets, en pas très bon état.
On reçoit des enfants. Là, récemment, on a reçu un enfant qui a une fracture des 4 membres, des 4 jambes, des 2 jambes et des 2 avant-bras, parce qu'il était carencé en calcium. Et dans une série qu'on a publiée, on a malheureusement eu un décès chez un jeune nourrisson qui était alimenté par du jus de châtaigne et il est décédé. Donc, on est, sans compter bien sûr les multiples carences nutritionnelles, aux séquelles lourdes qu'ils vont garder à vie. On est malheureusement devant une déviance alimentaire particulièrement délétère chez l'enfant. Mais encore une fois, c'est comme la religion, ça ne se discute pas.
Non, bien sûr.
Il y a des solutions. Il y a des solutions. Et nous les avons écrites. Et si vraiment les parents tiennent, pour des raisons idéologiques, à donner une alimentation végane, végétalienne à leur enfant, il faut absolument qu'ils suivent nos recommandations. Comme ça, tout le monde est content. Les parents, parce que leur enfant est végétalien, et l'enfant, parce qu'il n'aura aucune complication, à condition, encore une fois, de suivre chacune des recommandations que nous avons émises.
Merci beaucoup, Guy, pour votre appel.
Je vous remercie.
Et bon courage. Bonne journée. Au revoir. Depuis quelques années, l'agriculture biologique connaît un essor spectaculaire, effectivement. Mais quels en sont réellement les bénéfices sur notre santé? Nous demande Charles-Antoine.
La réponse est d'une extrême simplicité, dit en un mot, absolument aucun. 2 mots, ça fait.
voilà, ça te mérite d'être clair.
Il y a peut-être un bénéfice, mais ça, je suis incapable de prendre parti là-dessus, parce que c'est pas du tout ma spécialité pour l'environnement, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, pour la santé, et là, c'est mon domaine, ça n'a absolument aucun bénéfice. Pire encore, l'alimentation bio, contrairement à ce qu'on croit, est bourrée de pesticides, des pesticides naturels, notamment le sulfate de cuivre, et on ne connaît pas exactement les effets de ces pesticides sur l'homme. Alors, de manière générale, vous savez que le pesticide, c'est pas un véritable problème, hein, puisque les quantités qu'on retrouve dans l'alimentation sont infinitésimales et sans toxicité pour les consommateurs, contrairement aux agriculteurs. Donc, c'est pas vraiment un souci, mais ça n'a aucun intérêt, ni au point de vue bénéfique pour la santé, ni au point de vue de protection contre les pesticides ou contre les nitrates. Donc il faut vraiment oublier ça. Et si ça a un intérêt pour l'environnement et qu'on y tient, pourquoi pas? En tout cas, pour la santé, absolument aucun bénéfice. Ça, c'est certain et largement démontré par les vrais scientifiques.
Voilà, Vanina nous demande, est-ce que manger bio, c'est l'assurance de s'alimenter équilibré?
Ah, surtout pas. Surtout pas, parce que l'alimentation équilibrée chez l'enfant, puisqu'on parle de l'enfant.
Oui, on parle de l'enfant, bien sûr.
Là, je le répète souvent parce que c'est un point important. C'est par jour 2 produits carnés, 3 produits laitiers, 1 ou 2 fruits et légumes, et par semaine, 1 ou 2 portions de poisson. C'est ça, une alimentation équilibrée. Ça n'a rien à voir avec le bio. Absolument rien à voir avec le bio.
Donc voilà, donc pas d'effet sur la santé. On a un auditeur qui a une question pour vous.
Vos questions, les réponses de nos experts sur RCFM.
Bonjour Pierre.
Bonjour. Alors nous en Corse, on a tendance à manger gras, à manger la charcuterie, à manger la bonne chair. Pour ceux qui, comme moi, qui sont nombreux à avoir des problèmes cardiovasculaires, il semble que maintenant il y a une nouvelle vision. peut-être, tu sais, ça n'a pas d'effet pervers sur les coronaires. Bon. Après, concernant les végans, les végétaliens, c'est ce qui est tendance, ce qui tue nos sociétés, parce qu'avant, on mangeait à la maison, on buvait le lait directement, et c'était passé par un affinage, un traitement inouï. Donc, je voulais savoir, par rapport à notre façon de s'alimenter, qui a été modifiée, est-ce qu'il y a des nuisances, est-ce qu'il y a des incohérences, ou est-ce qu'il y a encore des choses où on peut se faire plaisir avec les plaisirs de la table?
Alors, professeur, vous êtes... Bon, on parle des enfants ce matin, mais professeur, vous dites qu'il faut se faire plaisir, de toute façon.
Oui, vous savez, je vous félicite de continuer à vous faire plaisir. Vous avez d'excellentes charcuteries en Corse. On mange très, très bien sur votre île. Continuez à bien manger. Surtout, continuez. Quand je vais dans les pays, je vais beaucoup au Maghreb. C'est pareil, on mange très très bien au Maghreb. Ils ne sont pas encore contaminés par tout ce qu'on entend ici en France. Il faut prendre du plaisir. Alors, pour revenir sur le risque du grain et des maladies coronariennes, quand on a du cholestérol, il faut modifier son alimentation et prendre des médicaments, des statines, pour diminuer le cholestérol. Mais si on n'a pas de maladie, si on n'a pas de problème coronarien, c'est pas le gras qui va provoquer des maladies coronariennes. C'est pas le gras qui va rendre gros, c'est les calories qui peuvent rendre gros. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est passé de la gastronomie à la gastrophobie. Et je le regrette. Et je prône le plaisir culinaire.
Toujours. Voilà, Pierre, j'espère que ça a répondu à votre question. Merci pour votre appel. Et à très bientôt. Professeur, justement,
merci,
on parle... Merci. On parle du plaisir, justement, de manger. Est-ce qu'une bonne idée d'interdire bonbons et sucreries à mon enfant, demande Julie.
C'est la maltraitance.
Carrément. Voilà.
C'est de la maltraitance. Les enfants ont le droit de prendre du plaisir. Nous, quand on prend un café, voire un digestif, modérément, bien évidemment,
toujours,
après le repas, ou même un chocolat, après le repas, c'est pas de la nutrition, c'est du plaisir. Les enfants y ont le droit aussi. Moi, je recommande, après chaque repas, pas avant, pas pendant, mais après chaque repas, de donner un aliment qui fait, ou une boisson qui fait plaisir à l'enfant, après chaque repas, c'est-à-dire après le déjeuner et le dîner. Pour le petit déjeuner, c'est un peu particulier. Et au goûter, on l'a dit tout à l'heure aussi, c'est un repas plaisir. Les enfants ont le droit de prendre du plaisir. Donc, les bonbons, les chocolats, les sodas, tout ça, pas avant, pas pendant, mais à la fin de chaque repas, tant qu'ils veulent.
Voilà, donc ça sera le mot de la fin. On finit sur une petite touche de plaisir avec vous, professeur Patrick Tounion. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous d'avoir été si nombreux à participer à cette émission. Vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur notre site internet France Bleu RCFM et la commenter sur nos réseaux sociaux.
France Bleu RCFM.